Shalom peuple précieux et béni de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 5, du verset 21 au verset 24. Je lis. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Les bien-aimés, nous continuons notre enseignement sur la marche avec Dieu. Nous avions déjà parlé de commencer la marche avec Dieu. Nous avions aussi parlé de voir Dieu. Et la fois passée, nous avions parlé de connaître le cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons de nous aurons comme sous-thème « Avoir les mêmes sentiments que le Christ ». Alors, prenons rapidement Philippiens chapitre 2. C'est là-bas que nous avons tiré ce sous-thème. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, on peut lire jusqu'au verset 9. Philippiens chapitre 2. Versets 5 à 9. Voici ce qui est écrit. Philippiens chapitre 2, 5 à 9. Il est écrit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10 s'ajoute, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc nous parlons d'avoir les mêmes sentiments que le Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Ayez en vous les mêmes sentiments que le Christ. Ou encore, je peux paraphraser, ayez en vous les mêmes dispositions du cœur qui étaient en Christ. Alors, comme prévu, nous avions dit la fois passée que nous allions commencer par développer d'abord le passage de Jérémie chapitre 7 que nous n'avions pas pu développer la fois passée, hein, au regard de Christ. Avant de prendre cette partie, c'est-à-dire la partie de marcher avec Christ. En fait, ce n'est pas une autre partie, mais ça fait partie de cet enseignement aussi. Jérémie chapitre 7, 22 à 24, il est écrit, « Car je n'ai point parlé à vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes mes voies, dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Ils n'ont point écouté, et ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. » Nous avions dit la fois passée que dans toutes les dispensations, il y a un commandement qui revient toujours. C'est écouter la voix de Dieu. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de l'écouter. Et pour écouter la voix de Dieu, nous devons d'abord aimer cette voix et soupirer après cette voix. Et si le Seigneur Jésus-Christ a réussi, c'est parce que, bien aimé, Dans tout ce qu'il faisait, il cherchait à écouter le Père. Il aimait la voix du Père. Et c'est pourquoi il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Or, pour faire la volonté du Père, il faut et bel et bien connaître cette volonté. Et pour connaître cette volonté, nous devons soupirer après cette volonté, soupirer après la voix de Dieu. Et c'est ce que, bien-aimé, la Bible nous montre ici. Mais seulement, les enfants d'Israël n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils ont suivi les penchants de leur cœur. C'est pourquoi la Bible dit, ils ont été en arrière et non en avant. Ils n'ont pas pu progresser. Il y a des gens qui n'arrivent pas à progresser dans leur vie parce qu'ils n'écoutent pas le Seigneur. Ils font au gré de leurs pensées et quelquefois ils suivent les conseils des amis ou encore ce qui vient dans leurs pensées. Faisons très attention. La Bible dit, ils n'ont point écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi les penchants de leur cœur. Voilà pourquoi ils sont malheureux. La Bible dit, si vous écoutez ma voix, la Bible dit, voilà, écoutez ma voix, je serai votre Dieu. Donc, comment savoir que le Seigneur est notre Dieu? Il est notre Dieu si nous écoutons sa voix. Comment savoir que nous sommes ses brebis? C'est lorsque nous écoutons sa voix. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit, mes brebis me connaissent et ils me suivent. Comment savoir que nous sommes brebis du Seigneur? C'est lorsque nous écoutons la voix du berger et nous suivons le berger. C'est là même le secret de la stabilité, le secret de la marche avec Dieu. Lui, il est le berger, nous sommes dans la bergerie, c'est lui qui nous donne, bien-aimé, l'orientation. C'est lui qui montre le chemin. Comme je disais la fois passée dans notre, je crois, le deuxième sous-thème, que les enfants d'Israël marchaient dans le désert selon le mouvement de la colonne de feu et de la colonne de nuée. C'est lui qui est le berger. Et David connaissait ces choses. Lorsqu'il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les eaux paisibles. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, tu dois savoir que Dieu va toujours te conduire vers les eaux paisibles. Mais attention, il se peut qu'en allant vers les eaux paisibles, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Mais bien-aimé, rien ne pourra te faire du mal. Tu ne craindras aucun mal parce que son bâton et sa houlette va te rassurer. Donc pendant que nous marchons avec Dieu, il pourra arriver, bien-aimé, que nous soyons exposés au danger. Mais bien-aimé, nous devons garder à l'esprit que le Seigneur est souverain, qui contrôle toutes choses. C'est lui qui nous conduit et rien ne peut nous arriver si le Seigneur le permet. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, tout le temps, il devait rappeler aux disciples que même les cheveux de vos têtes sont comptés et aucun d'eux ne peut tomber si l'Éternel ne le permet. C'était ça sa foi. Donc, avoir les mêmes sentiments que Christ, bien-aimé, les mêmes dispositions de cœur que Christ, bien-aimé, c'est de savoir que Dieu est notre Père et qu'il ne peut pas nous abandonner. Il dit, le Père est toujours avec moi. Il ne me laisse pas seul. Il ne m'a jamais laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Le Père, il est avec nous. Et la même façon qu'il a aimé Christ, le même amour qu'il a manifesté pour Christ, c'est le même amour qu'il manifestera pour nous. Il nous aime comme il a aimé le Christ. Voilà pourquoi cela apportera de l'assurance. C'est pourquoi nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans Philippiens chapitre 2, ici c'est un peu plus précis. Les sentiments que nous devons avoir ici, surtout, bien-aimé, c'est l'humilité. La Bible dit, il était Dieu par essence, mais il n'a pas voulu faire de ça une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié lui-même en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé, voilà, lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimé, la Bible dit qu'il était d'essence égal avec Dieu, mais il a décidé de s'humilier. Il a décidé de descendre. Et c'est comme ça que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimés, il est important que nous sachions que la vie du Seigneur Jésus-Christ devait inspirer la vie de tous les chrétiens parce que lui, il nous a montré comment marcher avec Dieu et le considérer comme Père. Christ est notre modèle. La Bible dit, portez vos regards sur le Christ. Imitez-moi comme moi j'ai imité Christ. C'est ce que l'apôtre Paul écrit. Donc, si nous voulons bien aimer, examiner notre vie chrétienne, nous ne devons pas bien aimer avoir nos yeux fixés sur les frères. Mais regardons d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Examinons notre vie par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Cela va nous aider à aller de l'avant. Pourquoi je le dis? Si nous comparons notre vie avec la vie d'un autre frère, s'il paraît plus spirituel que nous, ça peut nous pousser au découragement. Mais si nous regardons à un autre frère qui paraît moins spirituel que nous, ça peut nous pousser, bien aimé, à la paresse spirituelle, penser que nous avions déjà atteint ou c'est suffisant ce que nous faisons. Mais si nous regardons le Christ, cela, bien aimé, va toujours nous conduire à chercher à faire plus et à plus s'approcher de lui et à le connaître davantage. C'est ce que l'apôtre Paul avait compris. Il dit, actuellement je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Au verset 13 et 14 de Philippiens chapitre 3, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Je mets toutes choses en arrière, je porte mes regards en avant pour saisir le but. Je ne prétends pas avoir atteint, mais je cours vers le but. Qu'est-ce que je vais dire? Nous ne prétendons pas que nous sommes devenus parfaits, mais nous tendons vers la perfection. C'est très important. Mais le Christ, lorsque nous regardons sa vie, deux choses, bien aimées, marquent sa vie. Et c'est ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 11, que nous devons apprendre de lui. Dans Matthieu chapitre 11, après avoir dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos », le Seigneur Jésus ajoute quelque chose de très très intéressant. Matthieu chapitre 11, on peut lire du verset 28 au verset 30. La Bible dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous aurez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Qu'est-ce que nous apprenons de lui? La douceur et l'humilité. L'humilité, nous pouvons mieux l'apprendre auprès du Seigneur. Christ était humble. Et avoir les mêmes sentiments que le Seigneur Jésus-Christ, c'est bien aimé avoir les sentiments d'humilité. Et quand vous regardez le contexte, dans Philippiens chapitre 2 ici, la Bible dit, ne vous regardez pas comme étant grand. Hein, regardez, verset premier chapitre, au premier verset, si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements de charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions, quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment et un même amour. Une même âme et une même pensée. Écoutez bien le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc une chose a marqué la vie du Seigneur Jésus-Christ, c'était l'humilité. Le Christ était humble. Et c'est l'humilité qui faisait qu'il soit toujours en train de marcher ou qu'il soit toujours bien aimé dans la volonté du Père. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Donc la marche avec Dieu requiert, bien aimé, l'humilité. La marche avec Dieu exige l'humilité. Si nous ne sommes pas humbles, nous ne pourrons pas marcher avec Dieu. Nous allons tout le temps lutter avec Dieu. Et l'humilité, nous pouvons mieux l'apprendre auprès du Seigneur. Parce qu'on peut penser être humble et ne pas l'être. L'humilité n'est pas simplement un sentiment. Mais l'humilité, bien aimé, c'est un style de vie. De la même façon, bien aimé, qu'on apprend à prier en priant, on apprend l'humilité aussi par des humiliations. La Bible dit, humiliez-vous sous la main toute puissance de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. L'humilité, c'est le secret de la puissance. Il est écrit, humiliez-vous devant le Seigneur et résistez au diable et il fuira loin de vous. L'humilité, bien aimé, c'est le secret de la marche avec Dieu. L'humilité, c'est le secret aussi d'écouter la voix de Dieu. Lorsque nous sommes humbles, nous allons écouter Dieu. Lorsque nous sommes humbles, il sera très facile pour nous, bien-aimés, de l'écouter et de vivre avec les gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au milieu des hommes à cause de l'orgueil. L'apôtre Paul a écrit ici, aux Philippiens, « Ne faites rien par esprit de parti, ni pour vaine gloire. » Regardez le cercle chrétien aujourd'hui. Beaucoup de choses sont faites. Si vous avez les yeux pour voir, vous allez constater que c'est fait, bien aimé, pour une vaine gloire. chercher à se glorifier, à se passer pour quelqu'un, à montrer qu'on est quelque chose. Avec la prolifération des réseaux sociaux aujourd'hui, nous constatons de plus en plus que l'orgueil se manifeste à ciel ouvert. Faisons très attention. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons être humbles. Parce que l'humilité précède la gloire. Si nous voulons être auprès de lui, bien-aimés, nous devons marcher dans l'humilité. C'est là le secret de Christ. Et nous voyons l'humilité dans toute sa vie. Commençons par sa naissance. S'il y a quelqu'un qui pouvait choisir dans quelle famille venir, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a choisi une famille dans laquelle il y avait des gens faibles par leur caractère. Des gens qui avaient des défauts en ce qui concerne leur comportement. Oh, des gens qui avaient une mauvaise vie. Il a choisi cette lignée-là. Il est venu sur terre par cette lignée. Et regardez où il va naître. Il n'y avait même pas de place pour le recevoir. Il est né au milieu des animaux. Lui, l'agneau de Dieu. Lui, le créateur de tout. Il est venu par une famille pauvre. Il avait le choix de choisir même la famille où venir parce que lui, il est des sens Dieu. Il était avec Dieu au commencement. Donc, avant de venir, il était là avec Dieu. Il a choisi parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Jusqu'à 7 là-bas, tu n'as voulu ni offrir ni sacrifice, tu m'as donné un corps. Mais voici, ô Père, pour faire ta volonté. Donc, il avait le choix, mais il a choisi une famille pauvre. Pourquoi je dis que sa famille, Joseph et Marie étaient pauvres? Parce que selon la loi, lorsqu'on faisait circoncire l'enfant, on pouvait emmener bien-aimé un animal, un bœuf, pour le sacrifice. Mais pour les pauvres, on disait qu'il fallait apporter deux pigeons. Et c'est ce que, bien aimé, on avait donné comme offrande au temple le jour où on a circoncis l'enfant Jésus. Donc cela prouve à suffisance que Marie et Joseph faisaient partie de la classe pauvre. Il a marché sur terre et lui-même s'identifia comme le Fils de l'homme. Vous savez ce que signifie Fils de l'homme, hein? Ça signifie, bien aimé, en grec, en fait, c'est Bar-Adam. Bar-Adam qui signifie Fils de la terre, un simple homme, un homme commun, voilà. Lorsqu'il disait le Fils de l'homme, il disait je suis un homme commun, un homme ordinaire. Voilà le mot que je cherchais. Il se présenta comme un homme ordinaire, pas un homme qui est spécial, mais un homme ordinaire. Aujourd'hui, ce qu'on appelle homme de Dieu se présente comme des hommes extraordinaires. Oui, nous sommes extraordinaires en Dieu, mais bien aimé, lorsque nous marchons sur terre, nous ne devons pas bien aimé chercher à nous glorifier. Parce qu'il y a une différence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Satan. L'Esprit de Dieu nous pousse à l'humilité, mais l'Esprit du malin nous pousse à l'orgueil. La Bible dit « Celui qui s'élèvera sera rabaissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé. » Il y a une différence fondamentale entre le Christ et Satan, Lucifer. Christ était égal avec Dieu, n'a pas voulu faire de ça une proie d'être égal à Dieu. Mais lui, Lucifer, n'était pas égal à Dieu. Il est une créature. Il a voulu devenir égal à Dieu. Hein? Cela est écrit dans Ézéchiel 28. C'est aussi dans Ésaïe chapitre 14 où la Bible nous parle de sa chute. Regardez. Ézéchiel 28 dit ceci. Parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme dit au prince de Tyr. Ainsi parle l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu. Au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Vous voyez? Il se prenait pour Dieu. Dans Ésaïe chapitre 14, c'est là où il dit, il élèvera son trône au-dessus des étoiles de Dieu. On va lire ça rapidement. Ésaïe chapitre 14. Dans Ésaïe 14 aussi, on nous parle de sa chute. Ok, Ésaïe chapitre 14. Verset 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Vous voyez bien, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet. Des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez? Je serai semblable au Très-Haut. Voilà l'attitude qu'il a eue. Et verset 15 dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Et l'apôtre Paul nous parle ici que lorsque l'Antichrist viendra, l'Antichrist cherchera à faire la même chose. Disons un peu ça, ce n'est pas notre sujet. Je crois que nous aurons, lorsque nous allons parler de la fin des temps et, du retour du Seigneur, le retour du Seigneur, nous toucherons bien aimé ces points. Mais quand l'Antichrist viendra, la Bible dit qu'il se proclamera, même lui-même Dieu. C'est là qu'Israël va se rendre compte. L'Antichrist, quand il vient, il aura une période de 7 ans. La première période, il se présentera comme un homme de paix. C'est là où l'apôtre Paul dit, quand les gens diront paix et sûreté sur la terre, une ruine soudaine s'abattra. Et juste après les 3 ans et demi, l'autre moitié, il va montrer son vrai visage. Il va rentrer dans le temple, la Bible dit, il va arrêter le sacrifice. Il va commencer maintenant à chercher l'adoration. Il va prononcer même des paroles de malédiction contre Dieu. C'est là qu'ils vont se rendre compte que ce gars-là n'est pas le Christ. Regardez, remarquez ici, 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 3 au verset 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Bon, pourquoi je lis ça? Je pense que c'est mieux qu'on lise à partir du premier verset pour qu'on comprenne, pour cette compréhension. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc voilà l'esprit du monde. Et malheureusement, le même esprit est entré dans l'église aujourd'hui. Ceux qui prétendent marcher avec Dieu, mais ont la disposition de cet esprit. Parce qu'ils se prennent pour des dieux. Vous voyez des hommes dits de Dieu, ils ne peuvent même pas s'asseoir avec les autres. Vous voyez Christ, il dit, il y a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le Seigneur était mélangé avec des apôtres. Voilà pourquoi, lorsqu'il fallait le trahir, Judas devait indiquer aux pharisiens et au Sanhédrin, celui que je vais embrasser, c'est celui-là, il faut l'arrêter. Pourquoi? Parce que Jésus était mélangé avec les disciples. Mais de nos jours, bien-aimés, il y a cette séparation entre l'homme de Dieu et le peuple de Dieu. Hein? C'est un peu ce que vous voyez aujourd'hui à Rome, le pape. On dit sa sainteté, le pape, le représentant de Dieu. Frère, il n'y a qu'un seul représentant, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. C'est vrai que nous devons, bien-aimés, aimer, honorer les hommes que Dieu a mis au-devant de nous pour nous orienter, bien-aimés dans le Seigneur. On ne doit pas commencer à les vénérer. Aujourd'hui, on chante au nom des hommes de Dieu, on les glorifie. Quelquefois, les gens s'agenouillent devant eux pour leur parler. Tout simplement, bien-aimés, ça c'est l'esprit de l'Antichrist. On ne peut pas adorer la créature, on ne doit adorer que le Créateur. Donc, avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est bien-aimés, être revêtu des entrailles d'humilité. Avoir les sentiments d'humilité. Rénoncer à soi. Ne pas chercher à se faire valoir, mais chercher, bien-aimés, à valoriser les autres. L'humilité, bien-aimé, doit nous conduire à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ne pas chercher, bien-aimé, à prouver que nous sommes quelque chose. Ne faites rien par parti, ni pour vaine gloire. C'est ce que l'apôtre Paul, c'est ce que le Seigneur, l'apôtre Paul a écrit. Et les apôtres avaient en eux, bien-aimé, l'esprit de Christ. Lorsque Christ baladait, il ne faisait pas la publicité de ses miracles parce qu'il savait que partout où il passait, il devait accomplir la même chose. Et quand nous lisons les écrits des apôtres, or, dans Actes chapitre, dans le livre des Actes, on nous montre les œuvres des apôtres. On dit par exemple que Pierre et Jean ont fait lever ce homme qui n'avait jamais marché. On dit de Pierre que les gens étaient guéris rien que par le passage de son ombre. On dit de Paul que les hommes venaient avec des mouchoirs pour toucher l'habit de Paul et ils appliquaient ça sur des malades et les gens étaient guéris. Mais vous verrez à aucun endroit l'apôtre Paul parler de ces choses. Ils n'ont fait même pas mention, mais regardez aujourd'hui. Lorsqu'il y a un petit miracle, tout le monde doit témoigner. Et attention, en témoignant, on doit préciser que c'est par l'homme de Dieu X ou Y. Et avec des miracles mensongers. Quelquefois, ce n'est pas un miracle. On prend quelqu'un qui n'est pas aveugle, il fait semblant d'être aveugle. On prend quelqu'un qui n'est pas mort, il fait semblant de mourir en main de cercueil pour qu'on dise qu'il a ressuscité un mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le passé, il y avait des vrais miracles. Mais le Seigneur leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que Satan vous a soumis. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ils ne faisaient même pas attention à ça. Parce que le plus important, ce n'était pas ça. Bon, aujourd'hui, le plus important, c'est devenu ça pour attirer les regards et attirer les foules. Voilà comment certains de ceux qu'on appelle hommes, entre griffes, hommes de Dieu, sont partis, bien-aimés, rentrer dans des choses terribles, prendre des numéros, des fétiches pour faire le spectacle. Le miracle, bien-aimés, ce n'était pas pour le spectacle, mais c'était pour glorifier Dieu. Et c'était pour montrer que Dieu les aime, c'était pour manifester l'amour de Dieu. Aujourd'hui, c'est autre chose. Ayons en nous le sentiment qui est en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ avait des sentiments bien-aimés d'humilité. Et ne cherchait pas à se faire valoir. Lorsqu'il rentra, par exemple, dans la maison de Simon, on ne lui donna pas l'eau pour se laver les pieds. Il n'en a pas fait un problème. Oh, le Seigneur Jésus-Christ ne condamnait pas, ne jugeait pas les gens, mais cherchait toujours à montrer de la compassion. Il avait en lui la miséricorde. C'est la compassion qui le poussait, bien-aimé, à guérir les gens. Ce n'était pas bien-aimé dans le but de montrer qu'il est quelque chose. Ayant en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il pardonnait toujours. Il a toujours aimé. Il a aimé ceux qui ne l'aimaient pas. Ce sont les sentiments que nous devons avoir. Il a donné, bien-aimé, sa gloire aux autres. Et il est mort pour les autres. Il a accepté de porter en lui les péchés. Et la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 3, verset 16. Bon, Jean 3, 16 dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais 1 Jean 3, 16 dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il s'est donné pour nous, mais nous aussi, nous devons nous donner pour les frères. Voilà les sentiments qui étaient en Christ. Il s'est humilié lui-même, il a décidé de s'humilier, et Dieu l'a élevé. C'est pourquoi, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Frère, quand tu marches dans l'humilité, le monde des ténèbres va te connaître. Il y a eu des hommes comme ça, des exorcistes dans le livre des Actes des Apôtres, qui voulaient chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ne connaissent même pas Jésus. Mais ils ont dit, démons sort au nom de Jésus que Paul prêche. Mais quelle était la réponse des démons? Nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Les habits dit, ils sont sortis de là, nus, avec des habits déchirés, frappés avec des plaies par les démons, parce qu'ils n'avaient pas de relation avec le Seigneur. Ils n'étaient pas humbles. Mais chercher le spectacle. Bien-aimés, prions que Dieu nous délivre de toute forme d'orgueil. Prions que Dieu nous délivre des préjugés. Christ n'avait pas de préjugés. Il considérait les hommes au même titre d'égalité. Le plus important, c'était l'homme, l'âme. Mais ce n'était pas aimer l'extérieur. Nous ne considérons pas les gens en fonction de leur beauté ou de leur niveau intellectuel, l'argent qu'ils ont, non. Le Christ aimait tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est grand par son pouvoir. Mais il ne méprise personne. Le Christ ne méprisait pas les gens. Tout ce qu'il cherchait, bien-aimé, c'était la gloire de Dieu. On va s'arrêter là aujourd'hui. Prions vraiment que Dieu nous donne l'humilité, que nous soyons humbles, que nous manifestions l'humilité et que nous soyons libres de toute forme d'orgueil. Plus nous allons avancer avec le Seigneur, il va nous révéler les traces ou les formes d'orgueil en nous. Et plus nous allons nous approcher de lui, nous serons humbles et nous allons bien marcher avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement si le Seigneur le permet. Amen.